autour du sujet qui dit « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Le terme « maison » ici n'est pas à comprendre comme la construction, comme l'édifice. La maison fait allusion à la descendance, ça fait allusion aux humains, à la propriété humaine, les gens avec qui tu vis dans la maison. Moi et ma maison, ou bien moi et ma descendance, nous servirons le Seigneur. Alors, il a été constaté dans certaines familles que les parents sont beaucoup plus préoccupés par les affaires de service. Ils ont divers projets, ils ont besoin, ils répondent aux besoins fondamentaux de leurs enfants. Ça veut dire qu'ils les logent, ils les nourrissent, ils les scolarisent, ils les soignent, ils les vêtissent. Mais ils oublient un aspect qui est la vie spirituelle de nos enfants. Je peux proposer déjà que vous puissiez ajouter ce sixième élément dans les besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux sont le logement, la nutrition, l'habillement, la santé, la scolarisation, le logement, l'habillement et quoi? C'était pour répéter que je le disais. Chers amis, je veux vous demander de suivre parce qu'on sera en interaction. Je reprends. Les besoins fondamentaux de l'être humain, c'est quoi? Nous avons besoin de manger, n'est-ce pas? La restauration, nous nous habillons. Nous sommes logés dans des maisons. Et quand nous tombons malades, nous nous faisons soigner, les soins médicaux. Et en dernier lieu, c'est... Pardon? La scolarisation, merci beaucoup. Alors, nous félicitons les parents, ils ont été en mesure de faire cela à leurs enfants. Malheureusement, on a oublié un autre aspect essentiel qui accompagnerait ces cinq, qui est la vie spirituelle des enfants. Il a été constaté aussi que dans des familles, on organise des méditations le soir, la nuit. Et on a constaté que c'est souvent un des parents qui accompagne la famille et l'autre, il s'y intéresse moins. On a encore constaté que c'est souvent les mamans qui se préoccupent ou bien la charge de l'éducation des enfants est restée entre les mains des mamans. Et les papas s'y intéressent moins. C'est vrai, il y a certains qui accompagnent l'éducation de leurs enfants, qui aident maman à le faire, mais dans plusieurs familles, l'éducation, c'est l'affaire des mamans. Et quand l'enfant se mécomporte, c'est vraiment maman qu'on va, c'est à maman qu'on va poser la question. Alors, il y a aussi un élément que je vais appeler défi. C'est quand, en famille, les enfants deviennent incrédules. Les parents peuvent bien vouloir accompagner ces enfants dans la vie spirituelle, mais les enfants ne veulent pas se laisser conduire par les parents. Alors, un défi, c'est qu'il y a certains parents qui ont déjà, qui sont déjà découragés et qui ne veulent plus continuer. Et ils disent en swahili, dunia itakufundisha. Ou bien ils disent, ninana amikono. S'il vous plaît, chers parents, on est parents, éduquons jusqu'à la mort, accompagnons nos enfants jusqu'aussi à leur mort. Alors, les objectifs que nous poursuivons, c'est de rappeler qu'en plus des besoins fondamentaux, les deux parents doivent s'occuper aussi de la vie spirituelle de leurs enfants. Comme nous partageons le repas en famille, il faut qu'on partage aussi la parole de Dieu ensemble et faire de nos maisons des lieux d'adoration, faire de nos maisons des lieux où les enfants peuvent décider de suivre Jésus-Christ. Et cela, ça sera possible par le témoignage que les enfants auront de notre propre vie. Ça veut dire que ma vie soit en elle-même un lieu où je vais proclamer la parole de Dieu. Ça veut dire quand on voit mes actions, qu'on soit déjà dans l'obligation de dire « Je vais emboîter le pas des papas, je vais emboîter le pas des mamans. » Et comme ça, tous, on est conduits vers le salut. Je vais aussi dire que, d'une manière synthétique, le livre de Josué, c'est un livre qui nous parle de ce que Dieu veut de nous. Et ce que Dieu veut de nous, selon le texte que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte que Dieu veut que nous puissions l'adorer en tant qu'un seul Dieu, un Dieu unique, professer l'unicité de Yahweh. Dans nos familles, que les enfants sachent que Dieu est un, il est le seul qui puisse sauver, il est le seul que je dois adorer. Alors le texte que nous avons lu, c'est un des textes parmi beaucoup de textes qui sont dans le livre de Josué, et c'est dans la partie de conclusion. Le livre de Josué a deux grandes parties. La première partie va du chapitre 1 jusqu'au chapitre 13, et là, jusqu'au chapitre 12, là on est en train de parler de la conquête du pays. Pour que Israël entre dans la terre promise, il fallait qu'elle organise des conquêtes, qu'elle chasse un peu les ennemis pour mériter de vivre en paix dans cette terre. La deuxième partie, c'est la partie qui va du chapitre 13 jusqu'au chapitre 19, mais à cela on peut associer les chapitres 20 et 21 parce que c'est presque la même chose. Ici c'est la répartition territoriale. Dieu a promis au peuple d'Israël de lui donner la terre. Et là, on se partage maintenant la terre. C'est dans cette partie qu'on essaie de voir à qui on a donné telle partie, à qui on a donné telle partie. Maintenant, la partie que nous avons lue, elle fait partie de la conclusion. Et la conclusion est formée de deux chapitres. Le chapitre 23 et le chapitre 24. Alors, dans le chapitre 23, c'est le testament de Josué. Josué est en train de préparer sa mort et il doit dire les dernières paroles au peuple d'Israël. Alors, au chapitre 24, il renouvelle l'alliance. Les propos de Josué ici se synthétisent en un renouvellement de l'alliance avec Yahweh, Israël et Yahweh. Alors, comme nous sommes en train de clôturer la semaine, je vais vite faire la révision de la semaine écoulée, du lundi au samedi, ce qui s'est passé pour ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici au temple. Le lundi, le terme c'était un parent, disciple de Jésus, étant l'éducateur de son enfant. Si le parent est disciple, alors il peut accompagner son enfant. Et la leçon qu'on peut tirer de cette méditation de lundi, c'est que la priorité, avant tout vraiment, la priorité est d'orienter l'enfant vers le salut. Le mardi, le thème était « Qu'est-ce que nous enseignons dans nos familles ?» Nous apprenons à nos enfants beaucoup de choses. Maintenant, c'est quoi? Le contenu de ce que nous leur disons, c'est quoi? Le thème a suggéré que dans nos familles, nous puissions enseigner l'unicité de Yahweh, un seul Dieu, la crainte de Yahweh, le respect de l'Éternel. Et ça, c'est dans l'observance de sa loi. L'observance de la loi, c'est l'amour envers Dieu, l'amour envers moi-même et mon prochain. Et tout doit se traduire en action. Il ne suffit pas de le dire, mais on doit le voir aussi dans nos actions. Le mercredi, le thème était « Faire de nos maisons un lieu d'évangélisation » ou bien un lieu d'écoute de Dieu. Est-ce que l'ambiance selon que nous vivons dans nos maisons, est-ce qu'elle nous permet d'écouter Dieu ? Ou bien de dire oui, oui. En tout cas, dans notre famille, on est en train de s'évangéliser mutuellement. La leçon de ce jour, à partir de Corneille, on a compris que nous sommes appelés à maximiser les occasions d'évangéliser ceux qui sont dans notre entourage. L'entourage est complexe ici. L'entourage, c'est plus que ce que nous sommes ici. Nous sommes ici au temple. Ceux qui sont déjà à côté de nous, c'est un entourage. Nous sommes dans l'entourage de l'église, nos voisins à la maison, au service, partout où nous sommes, notre entourage. Il faut profiter de l'occasion. Chaque fois que nous sommes à côté de quelqu'un, de profiter de l'évangéliser. Alors il y a une question à laquelle chacun pourrait répondre. Avons-nous fait de nos maisons des lieux où le salut peut être obtenu? Selon que nous vivons à la maison, chacun peut être en train de se demander, est-ce que chez nous, si quelqu'un venait vivre chez nous, est-ce que nous l'aidons à aller vers le salut? Est-ce que nous pouvons participer favorablement à son salut ou bien à sa perdition? Le thème a demandé, ou bien suggéré, d'avancer les gens au salut dans notre, selon notre comportement. Le thème de vendredi, c'est celui d'aujourd'hui. Alors le vendredi, il a été dit, la méditation a été faite autour du thème Noé comme un modèle de discipulat en famille. Noé, un modèle de discipulat en famille. Si nous lisons ce texte, c'était le texte de Genèse 7, 1 à 10. Vous allez vous rendre compte que Noé était sauvé avec sa famille. Et Noé a été l'occasion du salut de sa famille à cause de ses actions. Ça veut dire, sa famille était capable de témoigner des actions de papa et tout le monde a directement accepté aussi d'être sous la conduite de Dieu. Ils ont vu l'intégrité en Noé, leur père. Ils ont vu que Noé était fidèle. Noé était obéissant à Dieu. Il écoutait Yahweh. Et tout le monde dans sa maison, il se disait, non. En tout cas, papa, c'est un bon modèle. Alors, Noé, avec sa famille, tous ont été sauvés à cause du comportement de Noé, leur papa. Le samedi, le thème était la responsabilité du disciple face à ceux-là qui sont déjà égarés. Quelle est notre responsabilité? Je suis déjà sauvé, tu es déjà sauvé. Quelle est ta responsabilité vis-à-vis de ceux-là qui sont perdus, vis-à-vis des pécheurs? Tu leur dois quoi? Ce que nous leur devons, c'est une seule chose, c'est d'annoncer la parole de Dieu, d'être fidèle dans la transmission du message selon que Dieu l'a placé sur ton cœur. Annoncer les oracles de Dieu sans cesse et puis sans crainte, comme Josué l'a fait ici en Josué 24. Alors, nous sommes les élus de Dieu et il nous a confié la mission d'évangéliser. Et sur nos cartes de baptême, c'est ce qui est mentionné, à aller faire de toutes les nations des disciples. Les nations, ce sont ces gens-là qui n'ont pas encore accepté Christ. Alors notre responsabilité vis-à-vis de ces gens, c'est d'aller les évangéliser, de leur dire la vérité de l'évangile. Le texte maintenant que nous avons lu, à partir du premier verset jusqu'au verset 13, vous allez vous rendre compte que Josué est en train de rappeler au peuple de Dieu tout ce que Dieu a été pour eux, tous les bienfaits de Dieu, depuis les patriarches jusqu'à la possession de la terre promise. Vous allez vous rendre compte que Abraham, c'était leur patriarche, le premier, et d'autres sont venus par après. Ils descendent d'Abraham, c'est vrai, il y a Isaac et Jacob. Alors, ces patriarches, Abraham, Josué a rappelé que Dieu, dans sa grâce, il a sauvé Abraham de l'idolâtrie. Abraham est venu d'un peuple idolâtre. Ça veut dire, nous pouvons dire, Israël est descendant d'un grand-père idolâtre. Un grand-père qui n'adorait pas Yahweh. Un grand-père un peu désordonné dans sa manière d'exprimer sa foi. Ça veut dire, avec Yahweh, il n'y avait pas d'alliance. Maintenant, c'est là l'origine du peuple d'Israël. Josué a rappelé tout ce que Dieu a fait parce qu'à un moment de leur histoire, ils sont partis en Égypte. Ils étaient là des esclaves et Dieu les a sauvés de l'esclavagisme. Vous connaissez toute l'histoire. Ils sont partis dans le désert. Dieu les a sauvés de tout ce qui était comme danger dans le désert. En plus du désert, ils devraient conquérir, ils devraient faire des conquêtes. Le conquête dans la ville de Jéricho, dans la ville de Haï et dans la ville de Gabaon. Et la conquête, ou bien toutes ces conquêtes, c'était farouche. Je rappelle que c'est dans la conquête de Gabaon que même le peuple d'Israël sentait que c'était sérieux. C'est là que l'on va dire que le soleil s'arrête pour que nous puissions nous battre et vaincre l'ennemi en totalité. C'est le cantique là populaire qu'on dit Ouai si mame na mwezi si mame yo. C'est là. C'était une conquête sérieuse. Alors, Josué est en train de rappeler que Dieu a été bon envers le peuple d'Israël. Il leur a accordé la victoire devant tous les ennemis. Même les rois qui étaient redoutables. On peut s'imaginer les rois redoutables, comment ils se comportent. Mais devant Israël, ils étaient rien. Parce que Dieu leur accordait la victoire avant la guerre. Alors, Josué a rappelé tout ça. Et dans ce rappel, du verset 1 au verset 13 et vient chuter au verset 14 et 15. Au 14e verset, il les appelle maintenant la crainte de Yahweh. De tout ce que Dieu a fait pour le peuple, Josué dit au peuple, s'il vous plaît, craignez Dieu, soyez quand même reconnaissants de ce que Dieu a fait pour vous. Ça veut dire ici, pour croire à Dieu, ou bien placer notre confiance en Dieu, il y a quelque chose qui doit nous susciter aussi. C'est l'histoire. Tout le monde a son histoire ici. Au moins tous, je ne vois pas de bébés, ça veut dire tout le monde a au moins son histoire déjà. Et dans ton histoire, tu peux être en mesure de trouver des tirés. Premier tiré, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ce moi. Au nom de ce que Dieu a fait, nous te supplions à la manière de Josué de dire, maintenant, il faut quand même reconnaître ce Dieu, il faut reconnaître sa grâce, crains-le maintenant, sers ce Seigneur. L'objectif de Josué, quand il rappelle au peuple tous ses bienfaits, il veut que le peuple se rappelle quand même de la miséricorde de Dieu, qu'il se rappelle de la fidélité de Yahweh. Tout ce qu'ils ont été, ce n'est pas que le peuple était fidèle chaque fois. Non, c'était vraiment par grâce. Vous allez vous rappeler, dans la conquête de Haï, il y a un militaire qui va voler à Khan. Ça veut dire un moment, ils étaient des désobéissants. Mais Dieu, il avait un objectif. Il voulait poursuivre son objectif avec ses peuples. Et finalement, il continue. Et maintenant, ici, en Josué 24, il dit, s'il vous plaît, reconnaissez quand même ce que Dieu a fait. Et adorez-les, servez-les. Au verset 15, l'alliance est renouvelée, chers amis. Josué appelle Israël à être décisif cette fois-ci. Quant à qui il servirait. Et Josué donne directement sa position. Il dit, moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Quand Josué dit cela, il s'est rappelé de la prophétie qui avait été donnée depuis que le peuple, c'était avec Moïse que cela avait été dit, que le peuple allait apostasier, ça veut dire renier sa foi. Le peuple allait faire encore une fois l'idolâtrie, allait adorer d'autres dieux. Alors, il sait que ce peuple, il n'est pas souvent sérieux. Alors, il les rappelle, il leur dit des choses pour que l'alliance soit renouvelée, qu'on recommence à zéro. Et il faut que je rappelle aussi un élément, Josué, même le peuple, tous ensemble, avaient l'obligation d'adorer Yahweh, parce que c'était déjà le commandement, c'était déjà l'alliance, c'était déjà prévu dans les 10 commandements que le Seigneur avait donné à Moïse. Vous vous rappelez qu'au premier commandement, qu'est-ce qu'il est dit? Oh là là, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Merci beaucoup. Et le deuxième, tu ne te feras point d'image, d'ailleurs, merci beaucoup. Et le troisième, je vais arriver à 4, le troisième. On lui donnerait un micro, je crois. Il est le seul qui répond. Alors, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Le deuxième, tu ne te feras pas d'idole. Le troisième, que du jour du sabbat, non, ça c'est le quatrième, que du jour du sabbat, on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. Le troisième, c'est de ne pas prononcer à tort le nom du Seigneur, son Dieu. Alors, avec le premier et le deuxième commandement, et Josué, et le peuple, tous avaient l'obligation de ne pas avoir des idoles. Alors, Josué est en train de le rappeler ici au verset 15. Il leur demande de renouveler l'alliance, qu'il soit décisive cette fois-ci, avec tout ce que Dieu a fait, qu'ils se disent, nous allons servir qui maintenant? Ou bien ce sont les idoles, ou bien c'est Yahweh. Alors, quand je préparais, je me disais, est-ce que Josué n'était pas aussi un personnage influent? En posant cette question, et le peuple savait qui était Josué, il devrait seulement dire oui. Comment vous trouvez, mes amis? Oh là là, vous ne réagissez pas, vous réagissez par un silence. Voici ma question. Josué, quand il pose la question au verset 15, il dit, je veux savoir qui vous allez servir. Ou bien c'est Yahweh, ou bien ce sont les idoles. Et au verset 16, le peuple va dire, nous allons adorer Yahweh. Moi, je me dis, est-ce que l'influence de Josué n'a pas sa part ici aussi? Intervenez. Laisse pas le silence, je ne saurais pas. Oui? Est-ce que l'influence de Josué n'y est pas? Ça y est. Merci beaucoup. En tout cas, son influence est là. Son influence est là. C'est une richesse qu'on peut exploiter aussi en famille, cher papa, chère maman. Avec notre influence, on peut amener les enfants à faire un choix. Mais attention, ce n'est pas qu'on va dicter. On ne va pas dicter, mais c'est un choix. On va leur laisser la liberté quand même de choisir. Maintenant, le livre de Josué, que nous avons lu le chapitre 24, nous dit ceci, je suis en train de conclure. Dans le livre de Josué, ou bien disons, au chapitre 24 de Josué, voici ce que nous pouvons retenir. Dieu est un. À partir de notre passé, nous pouvons être en mesure d'énumérer tout ce que Dieu a été pour nous et dire, à partir de tout ce que Dieu a fait, il est le seul que je dois servir. Il est le seul de qui je dois avoir le salut, et de moi-même et de ma famille. Autre chose, Josué a été brave. On peut s'approprier cette image de Josué. Il a été brave de se tenir devant le peuple et dire, peuple, choisissez. En famille, on peut faire aussi cela. Le salut peut ne pas toujours venir de papa ou de maman. Le salut peut aussi venir de l'enfant. Vous avez beaucoup d'exemples, n'est-ce pas, où l'enfant a été le salut de sa famille ou bien a aidé sa famille à accéder au salut. Soyons braves dans l'annonce de la parole, avec honnêteté, avec fidélité. Un autre élément, c'est un devoir que je veux donner à chacun. Chacun va énumérer. D'ailleurs, parmi les leçons de la semaine, il y avait ce devoir que je veux répéter maintenant. Il a été dit que nous pouvons transformer nos familles, nous pouvons amener le salut dans nos familles par nos actions. Quelles sont nos actions que nous posons? Est-ce que chacun peut énumérer ces actions qui peuvent susciter le goût d'approcher Jésus dans ceux-là qui sont dans notre entourage? Est-ce que ma famille, quand on me voit vivre mes actions, la façon dont je parle, parmi les défis, là, il a été cité aussi les injures. C'est comme s'il y a des parents qui injurient encore. Il y a des parents qui ne sont pas fidèles dans des petites choses. Il suffit qu'un téléphone sonne, on va dire qu'on est où, alors qu'on est où? On est telle part, et on va dire qu'on est ailleurs. S'il vous plaît, et les enfants écoutent. Si on peut faire cet exercice à la maison, dis mon chers enfants, qu'est-ce que vous voyez chez moi qui peut vous aider à accéder au salut? Il y a d'autres qui peuvent ne pas avoir ce courage de le faire parce qu'ils se connaissent déjà. On peut se témoigner, n'est-ce pas? Et ceux-là qui sont dans notre entourage, quand ils commencent à ouvrir la bouche, ils vont dire, qu'est-ce qu'il va nous dire celui-ci? Alors c'est bon, quand nous évangélisons à partir de nos profils, de nos statuts, il y a des statuts. En tout cas, vous sentez que ça vous donne l'espoir de la journée, ça répond à votre besoin. Ça vous est aussi arrivé, je pense. Ça arrive, les gens donnent de très belles paroles, de très bons versets. À un moment, vous lisez sur le statut de quelqu'un, vous sentez que vous êtes renouvelé. C'est bon. Il y a des affiches dans nos maisons. Il y a des versets. On a choisi de très bons versets. En tout cas, et c'est l'évangélisation. C'est très bien. Même sur nos t-shirts, sur nos vêtements, il y a des bons écrits. Et quand on lit, on dit oui, c'est un enfant de Dieu. Maintenant, est-ce que nos actions peuvent aussi le prouver? Ça veut dire ici, on va dire Dieu est un, on va confesser l'unicité de Yahweh dans notre vie. Ça signifie dans les actions. Et c'est, les actions parlent plus fort que le verbal. En tout cas, la voix qu'on écoute, elle peut faire quelque chose, mais les actions parlent plus. Tu peux même te taire, tu poses une action. Et l'action suffit pour que les gens te comprennent. Et par cette action, on peut dire c'est un enfant de Dieu ou bien ce n'est pas un enfant de Dieu. Alors Dieu t'a donné quoi? Qu'est-ce que tu as en mémoire de ton passé pour dire oui, ce matin, moi aussi je décide de suivre Yahweh. Moi aussi, avec ma maison, nous allons servir Yahweh. Peut-être je vais élargir le terme maison. Pour le terme maison, ce n'est pas seulement les gens avec qui tu vis, même les matériels qui sont dans ta maison. Je me rappelle d'une maman qui disait à ses enfants, en fait, elle est d'une famille catholique. Alors, quand les gens de sa famille venaient rester chez elle, elle leur disait, moi et ma maison, nous servons Dieu. Mes gobelets, vous n'y mettrez pas votre alcool. Dans mes gobelets, vous n'y mettrez rien. En tout cas, elle avait ce courage de dire, tout ce qui est ici chez moi est sanctifié pour Yahweh. Alors tout doit être au service de Yahweh. Moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Qu'est-ce que Dieu a fait? D'une manière générale, Dieu s'est révélé à nous, n'est-ce pas, mes amis? Nous sommes passés par une période, d'ailleurs la période continue, la période Covid. C'est dur. On doit se contaminer par la respiration. Tout le monde a besoin de la respiration. C'est de la respiration que nous disons, nous sommes vivants. Mais par la respiration, on a peur chacun, l'un l'autre, on a peur de s'approcher. Dieu nous a fait grâce, nous sommes vivants. C'est quand même une grâce. Ça peut être le premier tiré pour tout le monde ici, c'est possible. Il y a la guerre que nous vivons sans arrêt. L'insécurité, chaque fois, même maintenant, on peut entendre des crépitements, des coups de balle. C'est possible, n'est-ce pas, ici au Congo? Tout est possible, à chaque instant, tout est possible. Alors, de tout ce que nous avons vécu comme situation d'insécurité, Dieu nous a protégés, n'est-ce pas? Ça peut être le deuxième tiré pour chacun, dire, ah bon, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que je sois vivant maintenant? Tu es marié. Les gens sont en train de chercher les gens qui peuvent le marier. Ils n'ont rien eu. Même pas quelqu'un qui leur dise bonjour dans le cadre d'aimer. Toi, tu as été aimé, tu es marié. C'est aussi un tiré. En plus du mariage, tu as des enfants. D'autres se sont mariés comme toi, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Et le personnel soignant dit, ça va. Attendez seulement, l'heure va sonner, Dieu va intervenir. Qu'est-ce que nous on a fait? Qu'est-ce que toi tu as fait pour avoir 10 enfants à la maison? 5, même les seuls que tu as. Ou bien la grossesse que tu portes, la toute première. C'est une grâce. Tu as eu le diplôme d'État. Tu as eu le diplôme d'État. Et il y en a ceux-là qui n'ont rien eu. Pas parce que toi tu as été très intelligent. C'est une grâce. Avec le diplôme d'État, il y a beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui réunissent 80%, mais au diplôme d'État, ils n'ont pas de diplôme, ils n'obtiennent pas le diplôme. C'est aussi une grâce. Tu te réveilles le matin, tu vas au boulot, tu travailles. Il y a beaucoup de chômeurs. Mais toi, tu es là où tu peux signer sur la liste des paix. C'est une grâce. Dieu a fait des choses. Les gens sont en train d'être kidnappés. Toi, tu es calme là où tu es. C'est une grâce. Ton âge. Un moment quand on va enterrer, sois curieux de lire et de voir les gens qui ont ton âge, qui sont nés au même moment que toi. Ils ne sont plus vivants. Et nous vivons. C'est par grâce. Nous mangeons. C'est par grâce. Qui peut ajouter? Quelle autre chose peut nous aider à dire non, Dieu est bon, je dois le servir, je le considère comme mon unique Dieu que je dois servir toute ma vie, et moi et ma maison, désormais je vais me comporter de manière à ce que tout le monde soit attiré par mon comportement et l'objectif, tous au ciel. Pouvez-vous m'ajouter certains éléments? Pardon? La respiration, merci. Je vois un autre doigt ici. Ou bien je n'ai pas bien vu, ou bien c'était la même chose. Oui? Le volcan, oh, vraiment. Ah, vous venez de vous rappeler là où vous aviez passé la nuit. Oui, oui. Dieu nous a visités par cette catastrophe naturelle. Le volcan est entré en éruption. Et je vois la plupart ont l'âge où on vient de vivre deux fois l'éruption. C'est compliqué cette situation. Ça fait paniquer correctement. Mais Dieu nous a protégés avec nos biens. Ou bien les biens ont été volés. Au moins, il t'a préservé la vie. C'est une grâce. Oui, j'ai vu plusieurs doigts. Allez-y. Oui. Oui, oui. Covid, nous avons survécu. Et nous continuons à survivre. C'est une grâce. Oui, la liste, elle est en train de s'allonger correctement. Je sais que chacun peut avoir à dire et dire oui, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire aussi. On peut avoir des choses qu'on a dans son cœur et on se dit, ah, je ne dis pas ça ici. Mais Seigneur, tu vois, amen, c'est bon. Que le Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors à partir de tout ça, mettons ça ensemble et disons, en conclusion, je vais te servir, Seigneur, moi et ma maison. Et c'est une grâce que nous devons demander aussi à Dieu, de convaincre les autres par nos actions. En tout cas, c'est une grâce. Alors Dieu est bon, je sais que quand on prend cette décision, il ne va pas vous laisser, il va s'occuper de vous correctement, il fera de vous une grande personnalité de laquelle les autres auront la voie du salut ouverte et accéder à ce salut. Que Dieu vous bénisse.